RMC.
Oui, l'heure est grave.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Monsieur, notre nouveau président.
Le conseil des grandes gueules.
On ne peut pas mentir éternellement au peuple.
Les GG, les grandes gueules, en direct sur RMC, 10h, 13h, et comme tous les mercredis, ce sont les grandes gueules de la politique qui sont avec nous pour ce conseil des GG. Nous sommes avec Charles Bec-Bédé, soutien de François Fillon, bonjour.
Bonjour.
Et puis avec Benjamin Griveaux, entre autres, porte-parole d'En Marche. Bonjour Benjamin Griveaux.
Bonjour.
Et puis nous serons rejoints dans un instant par Daniel Simonet, qui est porte-parole de Jean-Luc Mélenchon. De quoi allons-nous parler aujourd'hui avec vous? Et si vous voulez, qu'il y a un souci de métro. Les trois déclarations choc de l'actualité, c'est à écouter tout à l'heure à 12h45. Dans les affaires courantes, on reviendra sur le sondage post-débat et puis les nouvelles petites révélations concernant François Fillon. Mais avant toute chose, une démission choc en moins de 24 heures, celle de Bruno Le Roux.
Ma responsabilité est aussi de préserver totalement l'action gouvernementale. C'est pourquoi j'ai adressé au président de la République ma démission. Celle-ci me permet, sans autre considération que ce que je suis en tant qu'homme et en tant que père de famille, d'affirmer clairement mon honnêteté, mon attachement à la vérité et à une République dont j'ai toujours essayé de défendre les valeurs, ce que je continuerai, bien entendu, à faire.
Bruno Le Roux, ex-ministre de l'Intérieur.
Réglé rapidement, en moins de 24 heures. Hein. Lundi soir, révélation dans une émission télé sur les emplois de ses filles comme collaboratrices parlementaires, notamment quand elles étaient lycéennes ou en stage. Hier après-midi, convoqué à l'Élysée. Et en fin de journée, il annonce qu'il est démissionné, entre guillemets, puisque c'est François Hollande qui lui a demandé de partir. Et ce matin, le Parti Socialiste demande à François Fillon de retirer sa candidature à la présidentielle après les nouvelles révélations sur les affaires le concernant, estimant que ses accusations empêche tout débat serein. En quelque sorte, il y a une jurisprudence Le Roux qui pourrait maintenant s'appliquer à François Fillon, Charles Bec-Bédé, Benjamin Griveaux. Que vous en pensez, Benjamin? On va laisser Charles affûter ses arguments.
Vous me faites rire.
Ah non, mais enfin, c'est un peu ridicule de la part du Parti Socialiste. Qu'ils aient demandé un retrait d'une candidature avant que les candidatures aient été enregistrées par le Conseil constitutionnel, ce qui a été fait depuis le 17 mars dernier, où ont été annoncés tous ceux qui avaient réuni les fameux 500 parrainages. Je veux dire, c'est pas au Parti Socialiste de dire quel candidat doit poursuivre sa candidature et qui ne doit pas le poursuivre. C'est chacun qui, en conscience, face à sa propre morale, à son éthique et à son comportement, décide d'être candidat ou non à l'élection présidentielle, remplit les conditions ou non de parrainage, et puis les conditions légales. François Fillon est mis en examen, il n'est pas à ce stade condamné, il y a une présomption d'innocence auquel nous on est très attachés aux institutions, hein. On ne fait pas siffler les institutions judiciaires dans nos meetings, contrairement à d'autres, et donc le même tarif pour tout le monde. Mais ça n'est pas au Parti Socialiste de choisir ceux qui devraient poursuivre la candidature, se retirer autre, ça n'est pas sérieux.
Donc la démission de Bruno Le Roux, c'est une petite instrumentalisation politique?
Je ne crois pas. Ça démontre, un, que quand François Fillon expliquait qu'il y avait une justice d'exception, que son cas avait été unique dans l'histoire des annales judiciaires françaises, parce que le parquet national financier aurait été saisi dans un temps record. Là, il a été saisi en 22 heures. Il y a une enquête préliminaire qui a été ouverte en moins de 48 heures. Il y a une démission. Voilà, c'est tout. Donc, mais c'est la règle normale. C'est finalement que cette justice-là s'applique quel que soit votre statut, candidat, ministre, député, simple citoyen. Les gens réclament que les règles soient les mêmes pour tous. C'est le cas. Un point, c'est tout.
Mais enfin, Charles Bec-Bédé, il faut reconnaître que là, François Hollande n'a pas hésité. Il se débarrasse du ministre de l'Intérieur, d'un de ses plus proches, parce qu'il dit, voilà, on peut pas tout mélanger. C'est quand même, on pense forcément à François Fillon. On se dit, François Fillon n'a pas eu la même réflexion.
Non, mais là, c'est l'arroseur arrosé, parce que, évidemment, Bruno Le Roux avait été hyper dur avec François Fillon, hein, il avait parlé d'accusations graves, et puis donc il était obligé d'en tirer les conséquences pour lui-même, c'est évident. Et François Hollande n'avait d'autre choix que de le débrancher. Et le PNF, le Parquet National Financier, n'avait d'autre choix que de lancer évidemment cette enquête, parce que sinon ça aurait fait deux poids deux mesures.
Ça montre bien que la justice est indépendante.
Donc, à l'instant, François Hollande, à l'instant, le président de la République demande l'exemplarité pour ceux qui exercent les plus hautes fonctions, ou briguent, c'est ce qu'il dit, le président de la République, ou briguent les plus hautes responsabilités.
Non mais là c'est une blague là. Je rigole.
Pourquoi?
Parce que il veut quoi que François Fillon, parce que soi-disant il serait mis en examen, se retire parce et puis après invoquer l'article 6 de la Constitution et puis se prolonger de plusieurs mois voire années parce que la République sera en danger.
Non mais la mise en François examen, Hollande, elle est réelle.
Il va falloir qu'il se calme. Et alors ça me fait marrer aussi vos attaques contre le Parti socialiste, peut-être pour essayer de montrer que vous en êtes éloigné au moment où tous les éléphants du PS vous rejoignent les uns après les autres et où en fait vous devenez, où Emmanuel Macron devient le candidat de la gauche et du Parti socialiste. Bon, enfin, écoutez, on va pas épiloguer. C'est quand même pathétique que ce quinquennat désastreux se termine ainsi, avec l'affaire Cahuzac et maintenant l'affaire Leroux. La différence énorme avec Fillon, c'est qu'il est candidat, c'est qu'on a tous compris qu'il y avait un calendrier qui s'était accéléré de façon inouïe pour le couler, parce qu'il allait devenir président de la République et que ça gênait beaucoup de monde.
Mais vous
croyez que l'exécutif est totalement innocent dans cette affaire? Vous pensez que le secrétaire général de l'Élysée,
vous avez des éléments pour étayer François les accusations?
Mais bien sûr que non, j'ai pas d'éléments. Mais bon, monsieur, je suis aux grandes gueules, je dis ce que je veux. Et les Français le pensent. Et de toute façon, c'est pas les juges.
Et c'est pas le Parti socialiste, et c'est pas vous,
Macron, qui allez nous dire aux Français pour qui vous votez. Et les juges, maintenant qu'ils arrêtent, on devrait être en trêve judiciaire. C'est pas la justice. Ce sont des juges. Vous savez très bien qui c'est. Le parquet national financier est totalement instrumentalisé depuis le début. Et donc maintenant, ça suffit.
Parquet a ouvert sur Bruno Leroux.
Oui, évidemment, il n'avait pas le choix. Il était obligé.
Là, il n'est pas instrumentalisé.
Mais on ne va pas tomber dans le panneau, quand même.
Bon, écoutez, Monsieur Becbédé est connu pour son amour des thèses complotistes, puisque j'ai bien regardé votre compte Twitter. Vous retweetez Russia Today, dont on sait que c'est un média 100% détenu par un État étranger qui fait état de complot. Vous retweetez les articles de Boulevard Voltaire. Donc vous êtes dans cette culture complotiste qui est groupusculaire dans la droite française, parce que moi je connais beaucoup de gens issus de la droite républicaine, sociale, européenne et libérale qui ne partagent en rien ce que vous êtes en train de dire.
On a plusieurs sensibilités à droite.
Je vous confirme. Et la vôtre est minoritaire. Mais vous portez des accusations gravissimes à l'encontre des institutions. Vous êtes là pour défendre la parole d'un candidat qui demain sera, selon les termes de la Constitution, le garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire, et vous mettez à bas cette institution tous les jours, depuis des mois, quand on a été le parangon de l'autorité morale, quand on a dit le général de Gaulle, imagine-t-on, mis en examen, franchement, un peu de décence, et reconnaissez pour le moins que la justice dans cette affaire, il n'y a pas de justice d'exception, c'est la même pour tous, mais manifestement ça vous pose un problème.
C'est pas les institutions que je remets en cause, et bien sûr François Fillon encore moins. Ce que je dis, c'est qu'il y a une instrumentalisation, un calendrier qui s'est accéléré, une manipulation. Et je ne peux pas
le pauvre
ne pas y
François
penser.
Fillon, victime de cette machinerie.
C'est ça qui a fait.
Vous aurez du mal à nous tirer une larme sur le cas de François Fillon.
Le problème, c'est que il n'y a pas une affaire Fillon. Il y a plusieurs maintenant affaires Fillon. Donc vous parlez du juge Tourneur, mais les costumes offerts par Robert Bourgi, l'intermédiaire entre Poutine et un milliardaire libanais.
Et alors, il fait du conseil.
Député,
beaucoup de politiques en font lorsqu'ils sont pas au pouvoir.
Est-ce que c'est bien? Parce que au-delà du cas Fillon, est-ce que c'est normal?
Et Macron, quand il est banquier d'affaires et qu'il touche 3 millions d'euros pour un deal, il n'est pas député, vous le savez très bien. Mais attendez, pourquoi on interdirait à des hommes politiques de faire du conseil? En l'occurrence, c'est pas bien méchant, 50 000 euros alors que Macron il touche 3 millions.
Nous l'interdirions. Il n'était pas député quand il a fait ça. Il n'était pas dépositaire de la souveraineté.
Il était déjà en train de rédiger le programme de François Hollande qui s'est terminé.
Il n'était pas dépositaire de la souveraineté nationale comme les chèques parlementaires, vous le savez pertinemment, et nous interdirons aux futurs candidats d'exercer, et éventuellement députés, d'exercer la fonction de conseil. Mais François Fillon, 10 jours avant que la loi change, il a créé sa société de conseil.
Il a quand même trouvé des représentants des Français hors sol.
Il a évidemment trouvé un temps incroyable hors sol, excusez-nous, quand on défend un candidat qui a 35 ans de mandat derrière lui et n'a jamais travaillé de sa vie.
J'ai envie qu'il y ait des députés qui soient membres de la société civile, qui est un vrai métier à côté.
Je vous le confirme.
Et je suis désolé, c'est possible de faire les deux en même temps.
Le conseil, c'est un vrai métier.
Ce qu'il faut, c'est se garder de tout conflit d'intérêt. Je vois
pas
où était le conflit d'intérêt.
Il avait le temps d'être en campagne primaire, d'être parlementaire et de faire du conseil. François Fillon, il a trois vies en même temps, c'est formidable. Je suis très admiratif.
Le conseil. Quant à Macron, quand il conseille Le Monde et aussi un autre groupe pour acheter Le Monde, très bizarre aussi.
Non, mais il était banquier,
ce garçon.
Il était banquier.
Il conseillait deux clients à la fois. Vous voulez qu'on en parle?
Lui a eu un métier.
Justement, le conseil, est-ce que, parce qu'on sait très bien que c'est grâce au carnet d'adresse de ces responsables politiques que effectivement ensuite on peut mettre en relation Poutine et donc c'est parce que Fillon a été premier ministre qu'il peut avoir accès à la fois à Poutine et à ce milliardaire libanais. Ce mélange des genres. Est-ce qu'il n'y a pas un problème?
Certains donnent des conférences, font rémunérer pour ça, personne ne trouve à redire.
Ils ne sont plus députés. Parce que vous pensez à Nicolas Sarkozy.
C'est quand ils font les deux en même temps qui
c'est un problème.
Enfin, écoutez, il était quand même ancien président de la République et il a.
Il n'était plus député.
Et Clinton, c'est pareil. Donc
non, il n'était plus député. Pense, alors, il n'était plus en fonction.
D'accord. Alors dans ce cas, vous voulez que la France devienne comme la Suède et puis que on ait une espèce
un
de
un peu de probité ne ferait pas de mal.
D'opération main propre globale.
Et pourquoi pas?
Non mais exactement, on peut s'en réjouir et on va vers ça progressivement. Pourquoi? Parce que les informations sont connues de tous avec les médias sociaux en temps réel. Et je trouve ça bien. Mais attention, parce qu'il faut aussi qu'on ait des gens qui soient pas hors sol et qui soient des...
Mais ils seront pas hors sol, ils seront deux mandats, civils qui sont engagés pendant 10 ans,
et ensuite
ils retourneront dans la vie active.
Et des gens qui font que dans la vie privée, ils ont une rémunération élevée, et puis à ce moment-là, il faut donc revoir à la hausse les rémunérations des parlementaires, par exemple, comme le propose Julien Dray.
Vous pensez qu'il faut mieux les payer pour éviter justement la tentation extérieure?
C'est pas pour la tentation, c'est pour qu'on ait... Mais écoutez,
des hommes et des femmes de qualité
qui gagnent 10 000 euros par mois. Alors, je suis conscient que je parle de beaucoup d'argent pour beaucoup de Français, mais il va pas spontanément dire bon bah tiens je vais faire un job à 3 000 euros par mois ou bon c'est 4 500 pour les députés.
Députés non, c'est 6 200.
Oui mais
vous avez
net.
Plus des enveloppes notamment pour les assistants parlementaires qui peuvent revenir à la famille, on l'a bien vu.
C'est différentes affaires. C'est pas un job, c'est un engagement. Vous-même si vous engagez en politique, c'est pas par intérêt personnel ou pécuniaire.
Non,
mais c'est parce que vous avez envie de changer les choses. C'est parce que vous avez une ligne politique.
Je suis engagé dans cette campagne. J'ai tout arrêté mes activités privées.
Qu'est-ce que vous faisiez, Benjamin Griveaux?
J'étais le directeur de la communication et des affaires publiques d'un groupe du CAC 40. J'ai cédé la totalité de mes actions, de mes stocks options, de mes actions gratuites. Je n'ai plus rien. J'ai divisé mon salaire par 3. C'est un engagement. Et très franchement, quand vous dites passer de 10 000 euros à 6 000 euros, c'est un sacrifice terrible. Je pense que les gens qui nous écoutent se disent que vous vivez sur une autre planète. C'est pas un sacrifice terrible. On peut faire ça si on a le goût de l'intérêt général. Faire ça pour son pays, de manière limitée d'ailleurs. Nous, on est pour le non-cumul dans le temps. On pense que deux mandats, c'est bien.
D'accord.
Parce que quand vous faites ça 10 ans, vous pouvez ensuite retourner dans le privé, avoir une activité
comment on revient dans le privé? Je comprends, mais comment on revient dans le privé? Parce que on va pas vous embaucher comme
juste.
Ça sur...
C'est très juste.
Voilà,
c'est
il faut avoir des compétences pour travailler.
Alors, la vraie chose, c'est que l'idée, c'est qu'on va avoir des députés qui auront eu des compétences et exercé un métier avant, qui auront été parlementaires, ou si vous exercez pleinement votre fonction de parlementaire, croyez-moi, vous avez professionnellement, à la sortie d'un mandat ou de deux mandats de parlementaire, progressé professionnellement, vous avez appris des choses, et vous pouvez vous reconvertir. Parce que il est vrai qu'aujourd'hui, vous n'avez pas de salariés quasiment à l'Assemblée nationale, pas d'artisans, pas de commerçants, parce que... C'est le fameux sujet débat depuis 30 ans.
Alors que la moitié des parlementaires britanniques sont des entrepreneurs.
Ouais. Donc ça veut dire que, par exemple, si vous vous présentez à la députation Charles Pébédé, vous êtes un homme d'affaires aujourd'hui, vous voudrez rester homme d'affaires et député en même temps?
C'est-à-dire que je pense qu'il y a certaines professions qui sont vraiment interdites à un député. Par exemple, tout ce qui est dans le domaine financier, tout ce qui est dans le domaine de l'assurance, parce qu'il y avait eu des scandales dans les années 70. Du coup, c'est interdit. Il se trouve que moi, j'ai un fonds d'investissement. Donc là, je serais obligé de passer la main pour mon fonds d'investissement. Mais oui, je pense que c'est bien qu'il y ait des personnes, mais d'ailleurs, heureusement, c'est le cas, hein. Il y a beaucoup de médecins, de quelques entrepreneurs, pas assez, qui sont province et qui arrivent à s'engager.
Vous dites qu'au Parlement britannique,
député.
C'est la moitié des députés.
Mais c'est 45%. Mais oui, mais c'est
qui
vraiment...
Qui viennent donc du monde.
C'est pour ça que qu'on a aussi cette
le regard sur le regard, travail.
Et puis cette inflation de lois, et avec trop de personnes qui représentent les Français à l'Assemblée nationale, déconnectées de la réalité. Et c'est pour ça
nous sommes d'accord.
Là, je crois qu'on est d'accord.
Mais vous n'êtes pas d'accord tous les deux, en revanche, sur le fait d'augmenter l'indemnisation des députés ou la rémunération des députés.
Moi aussi, je peux vous dire que par démagogie, je serais ravi de...
C'est vrai que c'est plus courageux de dire qu'il faut les augmenter.
Mais je dis que pour la plupart, ça ne sera pas possible parce qu'il y a un certain train de vie et il faut une rémunération décente pour ceux qui s'engagent.
Il y a une chose qu'il faut sans doute augmenter. C'est les moyens des parlementaires pour embaucher des gens compétents. Ce qui est très frappant, c'est quand vous êtes, par exemple, en Grande-Bretagne ou aux États-Unis, le staff des parlementaires américains est extrêmement compétent.
Mais il y a moins de députés,
ils sont beaucoup moins.
Il y a moins de sénateurs.
Mais oui, et nous, c'est une des mesures qu'on propose de réduire d'un tiers le nombre de parlementaires. Mais parce que quand vous avez un staff qui est compétent, vous êtes moins susceptible de vous faire balader par les lobbyistes qui viennent vous voir, par les cabinets conseils qui souhaitent évidemment proposer des amendements, parce que vous avez les moyens de rémunérer des gens
compétent, ce qui aujourd'hui est objectivement difficile. Quand vous disposez d'une enveloppe de 6 000 euros, vous avez un assistant en circonscription, un ou deux à Paris, et finalement ce sont des rémunérations somme toute pas suffisantes pour avoir des gens très compétents qui sont capables justement de travailler des textes de loi et d'accompagner le travail du parlement.
Avec interdiction d'embaucher la famille et puis justification de tous les frais engagés, comme dans n'importe quelle entreprise.
Suppression du régime des retraites spécial pour ce qui n'a aucun sens pour les parlementaires. Et nous, depuis le 6 avril 2016, donc on n'a pas attendu les dernières semaines ou les derniers mois, interdiction dans la charte fondatrice d'En Marche d'embaucher sa famille quand on est élu.
Non, mais on est d'accord là-dessus. Et il y avait eu un scandale au Parlement britannique, d'ailleurs, sur les notes de frais. Ça avait fait
des démissions
beaucoup
en masse,
de tort au parti au pouvoir à l'époque. Je crois que c'était les conservateurs. Et donc, je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais il faudrait aussi, pour revenir sur ce que vous disiez, donc moins de députés, plus de moyens. Il y a aussi un truc en Angleterre, c'est que le National Audit Office fait des audits pour le Parlement, pour les députés, et ça leur permet aussi d'exercer un contrôle accru. Alors nous, on a la Cour des comptes, mais la Cour des comptes, c'est un organisme judiciaire indépendant, et donc c'est pas tout à fait la même chose.
On pourrait le faire aussi pour les ministres. On ferait aussi peut-être pour les ministres, ça éviterait les scandales, parce que rappelons quand même que Bruno Le Roux, c'est le 5e ministre socialiste à démissionner suite à une affaire.
Dans un instant.
Donc dans le casting, il y a peut-être aussi autre chose à avoir.
Ah, ça, il y a très certainement.
Non, est-ce qu'on veut aller jusqu'à la Suède où il y a une ministre des Affaires étrangères qui a dû démissionner parce qu'elle avait acheté une tablette de Toblerone, pardon de faire de la pub, avec la carte du ministère. Il y a un moment, il ne faut pas non plus aller dans le délire, on est un pays latin.
Dans un instant, les affaires courantes, sondage post-débat, et puis les histoires autour de François Fillon, l'enquête qui s'élargit pour escroquerie avec faux et usage de faux.
RMC, jusqu'à 13h, les grandes gueules. RMC, Alain Marchal, Olivier Truchot, le conseil des grandes gueules, les affaires courantes.
Avec Benjamin Griveaux, porte-parole d'En Marche, Charles Becbédé, soutien de François Fillon, et puis nous sommes avec Daniel Simonet, porte-parole, nous a rejoint de la France Insoumise, insoumis de Jean-Luc Mélenchon, donc dans cette campagne électorale. Justement, parlons de vos candidats, puisqu'on a un sondage aujourd'hui post-débat. Post-débat sur TF1, en attendant le prochain, avec les 11 candidats qui seront organisés par BFM TV et CNews, pour voir qui a plutôt pas mal fonctionné, si ça fait bouger les curseurs.
Il faut faire la synthèse finalement des sondages qui ont été publiés après le débat. Donc il y a celui des Labs pour BFM TV, l'Express. Là je suis en train de regarder l'Opinionway quotidien. Il y a aussi l'IFOP, le Rolling et quotidien. Et ils disent à peu près la même chose, à savoir que concernant notamment Jean-Luc Mélenchon, il a indédiablement marqué des points. D'ailleurs il a été jugé par les observateurs comme étant l'un des meilleurs débatteurs. Et semble-t-il, il est en train de rattraper le petit retard qu'il avait sur Benoît Hamon, et maintenant ils sont coude à coude. Daniel Simonet, c'est votre... Alors, parfois il peut être devant, voilà. Bon, mais en gros, le match entre Mélenchon et Hamon semble relancer, et Benoît Hamon a perdu quelques plumes, Jean-Luc Mélenchon a plutôt repris du poil de la bête, non ?
Bon, vous savez que
nous
préférons nous mettre à distance des sondages, qui ont plus un objectif prescripteur qu'autre chose. Mais ce qui est indéniable, c'est que Jean-Luc Mélenchon était bien au-dessus dans ce débat-là. Il a vraiment dominé le débat. Il a montré aussi qu'il était non seulement quelqu'un de forte conviction, mais qui était aussi vraiment totalement à la hauteur de la fonction présidentielle, je pense. Il était vraiment au-dessus des autres, et y compris qu'il donnait le ton, qu'il a vraiment modifié le déroulé du débat. Et c'est vrai qu'après la très grande réussite de notre marche pour la 6e République, où nous étions 130 000 ce samedi...
Ça, c'est vous qui...
Alors, les 130 000, on
était 2 millions selon les chiffres Fillon, ça dépend comment on compte, mais je peux vous assurer qu'on était...
Non, Bruno Retailleau voit 200 000 au train de Cadéro, mais vous, 130 000, on ne les voit pas non plus, Plaza.
Les journalistes ont même reconnu que c'était... Que
enfin,
c'était
on peut
oui, il y avait du monde, mais il n'y avait pas 130 000 personnes.
La place de la République est pleine. Jean-Luc Mélenchon prend la parole, et vous avez encore des gens qui sont en train de venir depuis Bastille. Ah, donc c'était vraiment une mobilisation très forte. Et on le voit bien d'ailleurs sur le terrain. On le voit bien sur le terrain. Beaucoup de citoyens et de citoyennes qui hésitaient jusqu'à présent se disent, après ce débat-là,
qu'ils
vont soutenir la France Insoumise et Jean-Luc Mélenchon.
Parce qu'il y a un match entre Mélenchon et Hamon sur beaucoup de propositions, ils sont sur la même ligne. Donc ce match, pourquoi Mélenchon est peut-être en train de le... pas le remporter, mais en tout cas de s'affirmer comme étant plus clair vis-à-vis des électeurs de gauche.
Bah, d'abord parce qu'il est plus clair, parce qu'il incarne une cohérence. Jean-Luc Mélenchon, depuis 2005, où il était donc engagé pour le non au traité constitutionnel européen, n'a pas arrêté d'être celui qui incarne la volonté d'une bifurcation écologique, prendre en compte l'intérêt général humain, celui qui a fustigé et dénoncé les politiques d'austérité de la part de ce gouvernement qui a poursuivi finalement sur bien des points les politiques menées par Nicolas Sarkozy et qui, dans le programme aussi, est bien plus cohérent pour pouvoir véritablement mettre en place la politique de défense des services publics, de redistribution des richesses. Il va falloir désobéir aux traités libéraux européens, qui est le grand point de désaccord avec Benoît Hamon. Et Benoît Hamon, finalement, reste le candidat du Parti Socialiste. Il reste le candidat du Parti Socialiste. On a vu d'ailleurs qu'il y avait un petit congrès à un moment donné dans le débat hein, entre Monsieur Hamon, Monsieur Macron, hein, que le congrès se jouait à travers ces deux.
Ces deux
candidats. Non, beaucoup d'internautes l'ont vu.
Tout le monde l'a vu.
Mélenchon et s'en sont amusés.
C'est vrai que c'était excellent. À bien des reprises, on avait aussi l'impression que Monsieur Macron était Fillon compatible sur bien des sujets.
Il faut savoir. Alors, il est socialiste, il est fioniste.
Mais ça montre aussi toute l'évolution du Parti Socialiste qui en est. Ayant dans ce gouvernement et dans ce quinquennat Hollande continué la politique de Nicolas Sarkozy, eh bien finalement est dans une normalisation libérale qui n'est pas celle de Monsieur Hamon, mais dont Monsieur Hamon est là.
Alors post débat, les leçons du débat, Charles Becbédé, on a dit que Fillon avait eu du mal au début parce que il semblait être un peu cassé, un peu cratif également sur les attaques.
Non, au contraire, moi je trouve qu'il a été très bon. Alors je reconnais que Jean-Luc Mélenchon a été un bon tribun comme d'habitude. J'aime bien sa façon de s'exprimer. Mais il était trop dans l'arène, comme les trois autres, à part, et donc justement François Fillon, il était un peu au-dessus, il avait une stature présidentielle, il était sérieux, posé, et il a parlé des choses que veulent entendre les Français, c'est-à-dire des réformes structurelles majeures qu'il faut mener, de la lutte contre le communautarisme islamique, du régalien, et je trouve qu'il a été vraiment le seul qui avait cette stature de futur président de la République.
Benjamin Griveaux. Alors Emmanuel Macron, c'est vrai qu'il avait beaucoup à perdre parce qu'on l'avait jamais vraiment vu dans cet exercice. On a remarqué effectivement qu'il pouvait être d'accord parfois avec Jean-Luc Mélenchon, parfois avec François Fillon, parfois avec Benoît Hamon.
Mais pour une raison simple, quand François Fillon dit il y a un problème de dette dans ce pays, ben, franchement. Moi, j'ai pas de difficulté à dire que je suis d'accord qu'effectivement, il y a un problème de dette. Quand on aborde les questions de laïcité, moi, je n'ai pas de difficulté à être sur les positions qui peuvent être défendues par Jean-Luc Mélenchon sur la laïcité. Enfin, qu'est-ce que c'est que ce pays où, pour faire bonne figure, pour être au-dessus des autres, pour se positionner dans le clivage gauche-droite, il faut absolument taper sur le type en face.
Mais après, on a du mal à savoir qui est Macron.
Non, pas du tout. Pas du tout. Je ne crois pas. En tout cas, c'est pas ce que disent les enquêtes d'après sondage, puisque c'est apparemment celui qui a été le plus convaincant, qui présente le projet le plus cohérent. Jean-Luc Mélenchon a été un bon tribun ce soir-là, pour la raison qu'évoquait Daniel Simonet, c'est que son offre politique, elle est hyper cohérente, qui dit la même chose depuis des années, et que donc les gens lui font crédit de ça. Quelle est la difficulté de François Fillon? C'est qu'il a changé 3 ou 4 fois de programme depuis novembre. Parce que, les alliances vont bon an mal an. Il a distribué les milliards depuis plusieurs semaines, quand même, dans les week-ends pour faire un peu oublier des affaires sur la santé. Moi, j'ai toujours un peu de mal à comprendre ce qu'il souhaite réellement faire. D'ailleurs, le sujet a été évacué assez habilement par lui. Il a fait ça
de manière claire devant la mutualité de la santé.
Oui. On aurait aimé qu'il le soit devant les millions de téléspectateurs lundi soir. Et donc, si vous voulez, évidemment, qu'on peut avoir des points d'accord sur des constats avec les autres.
Je prends un exemple. Les fameuses 7 minutes que Marine Le Pen a dénoncées.
Oui, qui ne sont pas 7 d'ailleurs.
Non, pas 7, mais.
On est bien d'accord. Hein.
Bien sûr, mais c'est ce qu'elle a
Macron
dit.
Macron le creux.
Bon, voilà. Ouais. Macron sur l'Europe.
D'ailleurs,
vous avez vu sur les réseaux sociaux, sa déclaration sur l'Europe fait le tour des réseaux sociaux. Ouais. C'est vrai qu'on a du mal. J'ai relu ce matin. Sincèrement, j'ai rien compris. C'est-à-dire qu'il part de l'Europe, il parle un peu de la Russie, des États-Unis. On a raison d'être alliés. Et au bout, effectivement, de. Ça n'a pas duré 7 minutes. De cette tirade, on avait du mal à comprendre quelle est sa position. Européenne.
Il faut assumer que le sujet est d'une telle complexité que le résumer de manière très binaire, blanc ou noir, évidemment ça ne fonctionne pas comme ça.
C'est ce qu'on demande aux politiques, pardon.
Oui, on comprend la proximité avec la proximité avec Vladimir Poutine du candidat Fillon, et donc évidemment lui c'est la politique de la France, la politique du Kremlin en termes de matière étrangère, donc ça c'est très simple. Mais donc simplement, sans doute fallait-il être plus concret, et il le sera dans les semaines qui qui viennent sur la le débat européen. Ça a été un peu... On connaît ses positions, il les a exprimées à de maintes reprises, il est à Berlin, il les a exprimées dans de nombreuses tribunes. Mais simplement, ce que je veux dire aussi, c'est que parfois, les sujets sont complexes. Il faut assumer de prendre le temps de déplier.
Pas, on ne comprend
là,
pas plus non, généralement.
Non, il veut connaître, c'était totalement et creux.
Je peux dire quelque chose.
Il y a eu quand même plusieurs interventions sur la deuxième partie.
L'attaque de Madame Le Pen, et d'ailleurs Jean-Luc Mélenchon ou Benoît Hamon n'en disent pas plus. François Fillon le fait. Mais et les trois candidats un peu de l'illusion ou du repli sur soi, pas un mot en 3h15 de débat sur le financement de quoi que ce soit. Madame Le Pen a peut-être trouvé qu'Emmanuel Macron avait été creux pendant 5 minutes. Elle a eu 3h15, donc elle a parlé 45 minutes, pas un mot sur le financement. Rien. Des cadeaux à tout le monde, 250 000 places. Benoît Hamon fait des cadeaux à tout le monde dans ses meetings à Paris-Bercy dimanche, c'était open bar. Là, Marine Le Pen, on va augmenter le minimum vieillesse, on va augmenter pour handicap, on va augmenter pour tout le monde. Qui paye à la fin?
Est-ce que vous pensez justement
payer les pensions de Madame Le Pen?
Benjamin Griveaux, nous avons fait, nous, une émission sur nos propres médias. Voilà, de 5 heures, justement, pour présenter.
Mais il fallait le faire devant des millions de Français.
Détaillé, argumenté. Avec nos, non, parce que, arrêtez, mais vous êtes vraiment, vous rabâchez, vous nous entendez.
On est d'accord, les punchlines, on est d'accord, la Mélenchon-Luc Mélenchon.
Au moins, soyez inventifs, parce que celles-là, elles sont un peu surchauffées, quoi. Bon. Donc, ces 5 heures sur le chiffrage du budget, nous avions nos économistes, nous avions nos syndicalistes, nous avions, nos citoyens experts, qui ont permis de démontrer toute la cohérence de notre chiffrage.
Mais s'il faut 5 heures pour expliquer des choses simplement, faisait le reproche à Emmanuel Macron de ne pas être capable de le faire en 2 minutes. Alors, soyez cohérente et que Jean-Luc Mélenchon le fasse devant des millions de téléspectateurs en 2 minutes.
Son petit oral de l'ENA ne lui suffit pas.
Le chiffrage de Mélenchon, ça repose quand même beaucoup sur de l'emprunt, si j'ai bien compris, c'est ça, on emprunte. Alors, là, c'est quand même pas très rassurant dans un pays déjà endetté.
On récupère les 80 milliards d'évasion fiscale, déjà.
Ah oui, bon, enfin, ça se fait pas une baguette magique comme ça.
Bah, personne n'y avait jamais pensé.
Bah, oui, excusez-moi, mais ça fait des décennies de retard, par rapport à la façon dont les Américains, aux inspecteurs des impôts et au ministère du budget. C'est une insulte aux Cahuzac et compagnie qui ont toujours préféré, finalement, mieux défendre la finance.
Ensuite, nous estimons
qu'il y a un cercle vertueux, qu'à partir du moment où vous faites une politique en matière d'investissement et de relance de l'activité,
vous
produisez à ce moment-là de l'activité qui permet d'augmenter les recettes de l'État. Et que chaque euro investi, rapporte bien plus qu'un euro en termes de circulation.
Ce qu'on appelle la politique de la demande.
Voilà. Et nous pensons, que la hausse des salaires, par exemple,
en augmentant les impôts,
permet de développer le carnet de commandes des petites entreprises, et ça permet de bien plus développer l'activité. Écoutez, même le FMI a fini par dire que les politiques d'austérité et les politiques de l'offre devenaient une aberration.
C'est pas pareil. Austérité et offre, c'est pas pareil. Les politiques de l'offre, c'est stimuler la création d'entreprises, permettre aux petites entreprises de grandir. C'est là que se fait la création d'emplois, vous le savez très bien.
Mais oui, et résultat,
il faut pas les mettre craquer avec des impôts et des taxes.
De CICE, et finalement, c'est arrivé dans quoi? Dans les poches des actionnaires qui ont augmenté de 40% leurs dividendes versés. Quels sont les salariés dans ce pays qui ont eu une augmentation de salaire?
Et la baisse du pétrole.
Quels sont les salariés dans ce pays qui ont eu une augmentation de salaire aussi fantastique qu'ont pu en bénéficier les actionnaires,
Bon, on a eu des augmentations de salaire dans la fonction publique d'ailleurs là cette année.
Ah ouais. Ah bah oui.
Il faut changer le curseur, retourner vers une politique de la demande.
Il faut faire les deux, mon capitaine. Parce que si vous ne faites que l'un au détriment de l'autre, eh bien, vous n'êtes pas sur les deux jambes qui ont fait que le modèle social français fonctionne. Emmanuel Macron, je prends le sujet du travail. Vous libérez d'un côté en simplifiant, en faisant en sorte que vous avez un ordre public social qui est fixé par la loi, et après vous laissez de la liberté, et vous faites un peu confiance à l'intelligence des salariés, des employeurs, dans les branches et dans les entreprises. Ça, c'est plus de liberté. Si vous ne faites que ça, c'est la loi
de la jungle.
Et donc en face, vous mettez de la protection, c'est l'assurance chômage pour tous, c'est l'investissement massif dans la formation professionnelle, qui est une espèce de plaisanterie dans ce pays. 15% des chômeurs bénéficient de la formation professionnelle, 85% ça bénéficie à des salariés, et plutôt à des cadres de grands groupes qui franchement n'en ont pas besoin. Donc vous la mettez au mauvais endroit. Donc vous mettez une liberté et vous mettez de la protection. Vous faites de l'offre et de la demande. Si vous ne faites que l'un ou l'autre, comme j'ai en face de moi, eh bien vous êtes bancal et vous n'avancez pas parce que vous faites du surplace par définition.
C'est mignon tout ça.
Macron,
il serait pas un peu normand là, un peu de ci, un peu de ça, puis un peu de.
C'est le fils de Hollande.
Ça fait 30 ans qu'on fait tout l'un ou tout l'autre et ça marche pas.
Mais c'est là où on n'est pas du tout d'accord, c'est que la France, elle est ultra étatisée. On est à 57% de dépenses publiques sur PIB. Et donc, il faut, revenir 55, à un 7. Niveau 7. Normal, compatible avec la moyenne européenne. On est en surdépenses publiques. Et donc, on est en surprélèvement obligatoire. Non. Et on a bien sûr, en plus, des rigidités délirantes dans
le problème.
Tant qu'on n'aura pas compris ça. Et malheureusement, c'est dommage parce qu'Emmanuel Macron, dans sa loi,
vous libérez,
la fameuse loi Macron, il allait beaucoup plus loin
que ce que je vous dis, c'est que vous libérez.
C'est un ectoplasme par rapport à ce qu'il devrait faire. Il le sait très bien quand il était à la commission Attali également. Et donc, ce qu'il faut, c'est des réformes structurelles radicales. Et il n'y a que François Fillon qui les propose.
C'est ce qu'il propose, mais il met de la protection en face. François Fillon, c'est l'insécurité.
Il faut au contraire se préoccuper des besoins à satisfaire. Je vous prends un exemple. Moi, il y a un sujet qui me préoccupe énormément en ce moment, c'est les conditions dans les EHPAD. Vous savez, les établissements d'hébergement
des personnes âgées dépendantes,
où franchement, tous les échos qui remontent dans le pays, c'est une maltraitance institutionnelle potentielle. Non pas parce que les personnels seraient mauvais, mais parce qu'on les met dans des situations de sous-effectifs où l'attention ne peut pas être apportée. Parce qu'on impose des politiques d'austérité à ces établissements-là. Et donc, il n'y a pas du tout trop d'emplois publics dans ce pays. Au contraire, il faut créer les emplois qui répondent aux besoins, que ce soit par l'emploi public, que ce soit en encourageant les coopératives, que ce soit en soutenant l'artisanat et les petites entreprises, et arrêter ces politiques qui, pendant des décennies, ont beaucoup plus servi les multinationales. Et quand je vois le développement de l'ubérisation défendu par Monsieur Macron, qui en est le meilleur VRP, c'est une catastrophe parce que on va organiser le remplacement de travailleurs en CDI par des travailleurs en auto-entrepreneurs, comme me l'ont d'ailleurs très bien explicité des chefs d'entreprise, notamment dans les entreprises de la livraison.
Mais pas du tout.
Vos candidats sortent d'un débat à 5. On voit 10 millions de Français, donc ils sont passionnés.
Mais qui a duré plus de 3h30. Voilà,
par cette élection présidentielle. Ils attendent de voir quelle personnalité ils ont sur le plateau, quels sont les programmes défendus. Le prochain débat, ce sera à 11, avec les 11 personnalités.
Le 4 avril sur BFM TV.
Dont les parrainages ont été validés par le Conseil constitutionnel. Qu'est-ce que vous en attendez, Benjamin Griveaux? Est-ce que c'est utile pour la compréhension pour les Français?
Vous dire qu'à 11, on aura une plus grande clarté des débats et le temps d'expliquer les choses, sans doute pas. Je trouve pas anormal que les autres candidats qui ont obtenu les parrainages puissent faire valoir les idées qui sont les leurs. Ça a été dit d'ailleurs lundi soir par quelques candidats sur le plateau.
De manière un peu hypocrite.
Mais je reconnais que, objectivement, même y compris en termes de réalisation, je souhaite beaucoup de courage aux Français qui vont regarder les 11 prise de position sur les sujets. Sans doute faudra-t-il traiter moins de thèmes et donc ce sera un peu déceptif pour tout le monde parce que tous les thèmes ne pourront pas être traités à moins de prendre un lit de camp et un sandwich et un thermos et là on y passe la nuit. Mais objectivement c'est un peu compliqué.
4 heures. Moi ça sera pas un débat. Ça sera une juxtaposition de monologues et ça sera un concours d'éloquence. C'est intéressant.
Mais il est
personnellement,
important.
Quand certains s'exprimeront, j'irai en profiter pour aller voir mon frigidaire.
Ah ben c'est du joli ça.
Eh ben oui.
Ah ben
Il a un discours qui est clair. Il est député maire, il sait de quoi il parle. Jean Lassalle aussi, député maire. C'est un Bernais enraciné. Moi qui suis Bernais, je ne peux que me féliciter qu'il ait réussi à passer les 500 parrainages. Donc là, ça m'intéressera. Et puis, oh non, mais j'écouterai Jean-Luc, hein. Vous inquiétez pas.
Sera le plus brillant une fois de plus, alors.
Bien sûr.
Non, mais est-ce que c'est important d'entendre Jean-Luc Mélenchon échanger avec Nathalie Arthaud, avec François Asselineau, avec Jean Lassalle? Est-ce que ça fait avancer le débat?
Écoutez, c'est la démocratie. Voilà, il y a 11 candidats. Il y a 11 candidats, donc bien sûr que ça va être très compliqué. Je n'ai pas du tout de solution et voilà, bon courage.
Vous bottez en touche là, Daniel Simonet.
Mais bien sûr, je botte en touche, mais j'assume. Ah oui. Que je dis,
Elle aimerait bien récupérer les voix d'Arthaud.
Mais écoutez, moi je respecte. Voilà, je respecte Madame Arnaud, je respecte Monsieur Arthaud, pardon. Monsieur
Arthaud, déjà, vous voyez, j'ai du mal à me souvenir des noms déjà.
Non. Et Monsieur Asselineau et tous, ils sont candidats.
Oui, mais ils sont tous gentils.
Mais non, ils sont pas tous gentils. Il y en a plein que je combats, notamment le vôtre. Il faut le combattre.
François Asselineau pense quand même qu'Emmanuel Macron est un agent caché de la CIA, si vous voulez. Donc,
mais c'est la règle du jeu.
Il nous l'a dit avec nous.
Mais
ça, on connaît.
Mais
au-delà, du problème du débat télé, bon, on avait renforcé les règles, hein. Et finalement, on se retrouve avec 11 candidats. C'est quasiment un record. Une fois, on était à 16, mais 11, on est plutôt dans la fourchette haute. Donc, est-ce que c'est normal? Est-ce qu'on a besoin de 11 candidats sur la ligne de départ pour une élection présidentielle, sachant qu'effectivement, parfois, il y a quand même des doublons. On parle de Philippe Poutou, Nathalie Arthaud. C'est quand même à peu près les mêmes.
Mais je vais vous poser une autre question. Oui. Pourquoi est-ce que dans ce pays, c'est qu'au moment de l'élection présidentielle, qu'on organise des vrais débats, projet contre projet?
C'est une bonne question.
C'est quand même une bonne question. Nous,
mais parce que vous savez pourquoi? Parce que les candidats le refusent hors.
Les candidats.
Vous me posez la question.
Voilà.
C'est pas ça, parce que nous, on est dans les médias, on peut vous dire comment ça se passe. On propose des duels, des face-à-face, et à chaque fois, il y en a un des deux ou un des trois.
Moi, je vais vous dire de mon côté comment ça se passe. Je vais vous dire de mon côté comment ça se passe, d'accord? Il y a trop peu de débats et de débats politiques dans nos médias aujourd'hui. En plus, c'est pas vrai qu'ils invitent l'ensemble des formations. Je peux vous le dire parce que le nombre. Moi, je suis co-coordinatrice du Parti de gauche depuis plus d'un an et demi. Je n'ai pas été invitée à beaucoup de matinales, hein, par exemple. Or, les homologues d'autres partis politiques l'ont été beaucoup plus. Et on a une logique de monarchie présidentielle. On a une logique de monarchie présidentielle. Non, mais regardez les comptes. Comparez les comptes de campagne, les comptes de du CSA. Non, ça sera votre affaire. C'est vous qui avez des problèmes à ce niveau-là.
Non, on n'a aucun problème. De quoi
regardez les comptes du CSA.
De quoi vous parlez? C'est quoi
regardez
les
comptes du CSA et vous verrez que nous ne sommes pas du tout traités de la même manière. Mmh. Mais c'est le problème de la logique de la monarchie présidentielle qui privilégie le débat politique pour l'élection présidentielle au lieu d'assumer de respecter le débat politique tout au long de l'année.
Il nous reste 40 secondes avant la pause, mais Benjamin Griveaux, on a entendu d'ailleurs Jean-Luc Mélenchon interpeller Emmanuel Macron en disant il y a bien une chaîne qui peut nous organiser un duel. Vous seriez prêt à un duel hors débat traditionnel tel qu'ils vont arriver les deux autres?
Il faudra demander aux deux protagonistes s'ils veulent l'organiser.
Vous seriez pas contre?
Écoutez, nous on a à ne faire de débat contre.
C'est plus possible.
Les
règles du CSA, c'est
Emmanuel
possible.
Macron, vous l'aurez compris, il n'a aucun problème à débattre avec tous les candidats qui le souhaitent en tête à tête. La difficulté, c'est qu'aujourd'hui, on est
ici, on est obligé.
Ah oui,
ça c'est
pas
difficile. Nos propres chaînes
de gladiateurs. Il est le seul à avoir fait l'exercice de grand oral devant toute la rédaction de Mediapart, dont on ne peut pas dire qu'elle soit macroniste pendant 3 heures sans aucune note. Et ça, il l'a fait avec un grand talent, donc...
Dans un instant, les trois déclarations à vous faire écouter.
RMC, 10h-13h, les grandes gueules. RMC.
Oui, l'heure est grave.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Monsieur, notre nouveau président.
Le conseil des grandes gueules.
On ne peut pas mentir éternellement au peuple.
Alors on y va pour les trois déclarations à faire écouter dans un instant à Benjamin Griveaux, Charles Baïk-Bédé et Daniel Simonet. Juste le temps de passer par Éric Brunet, Radio Brunet, qui est en tournée cette semaine. Et alors vous êtes chez un agriculteur qui s'appelle Laurent.
Alors je suis à côté de la ferme de Laurent à Ruffec. Je suis dans la mairie d'une petite commune de 500 habitants à Ruffec. C'est à 50 km de Châteauroux et à 50 km de Poitiers à peu près. On est dans le sud de l'Indre.
D'accord.
Voilà. Alors on va parler bien évidemment de la ruralité, passionnant. Et alors il y a une carte postale, ici c'est magnifique, c'est très très beau. Il y a la Creuse, petite rivière qui coule juste à côté de l'école communale, c'est une gueule incroyable. Derrière la carte postale, on va s'interroger, est-ce que c'est facile de vivre à la campagne? Pas forcément. Le brunimétrie, est-il plus difficile de vivre à la campagne que dans certaines banlieues? Et si finalement, on est loin, par exemple, des services publics, des services sociaux. Et si c'était plus compliqué qu'on ne le pense de vivre à la campagne, voilà de quoi nous allons parler tout à l'heure avec mes invités à partir de 13h.
32-16 pour réagir avec l'ami Eric. Ici, on mettait les villes à la campagne, comme disait un auteur connu il y a bien longtemps. Les trois déclarations pour Charles Baïk-Bédé, pour Benjamin Griveaux et pour Daniel Simonet. Première déclaration pour Charles Baïk-Bédé, on vous fait écouter le président russe.
Pour moi, M. Fillon est différent des autres hommes politiques. Il peut défendre son point de vue. Il le fait de manière constante. C'est en cela qu'il est un dur négociateur et bien entendu, un véritable professionnel.
Ah bah, on
on comprend qu'il aime bien. Puisque... Ouais,
je peux rajouter une info de dernière minute. Vladimir Poutine vient de démentir les informations qui ont été publiées par le Canard Enchaîné concernant le rôle qu'aurait eu François Fillon pour essayer de mettre en relation un milliardaire libanais et le président russe. Donc décidément, Vladimir Poutine a choisi Fillon.
Si Poutine non, mais, c'est vrai. Fillon est, vous savez ce qui s'est passé, c'est que quand Poutine était passé Premier ministre, Fillon était Premier ministre. Donc, ils se voyaient fréquemment. Et ça énervait Sarkozy, d'ailleurs. Et donc, ils ont noué une relation. Mais pour autant, je crois que ce qui est intéressant dans la candidature de François Fillon, c'est qu'au niveau des relations internationales, c'est quelqu'un qui pense, comme Disraeli le disait au 19e siècle en Angleterre, l'Angleterre n'a pas d'amis, elle n'a que des intérêts. Ben, il faut revenir à cette vision des relations internationales et arrêter avec la politique internationale bisounours où il y a un camp du bien et un camp du mal.
D'accord, donc y compris faire du business, même non, en servant d'intermédiaire.
Ils font les intérêts de la France avant tout.
D'accord.
Quelles que soient les postures morales.
Deuxième déclaration, c'est pour Daniel Simonet, c'est directeur de campagne justement de François Fillon, Bruno Retailleau.
Mélenchon, c'est le retour en arrière, voilà, c'est la révolution, caramba. Mais ce n'est pas un projet qui peut être appliqué dans un pays ouvert.
Révolution, caramba.
Caramba, bah écoutez, tant mieux si Monsieur Retailleau en a peur de cette révolution citoyenne où nous proposons que le peuple puisse reprendre en main son destin avec son butin de vote à travers la convocation d'une assemblée constituante, de la même manière à travers la stratégie plan A, plan B pour désobéir aux traités libéraux européens où on propose qu'il y ait un référendum pour que le peuple in fine tranche si les négociations que Monsieur Jean-Luc Mélenchon entreprendra pour refonder l'ensemble des traités européens seront satisfaisantes ou s'il faudra mieux désobéir de ces traités, sortir de ces traités pour surtout ne pas se soumettre aux politiques d'austérité. Parce que l'indépendance de la France a besoin d'un peuple éclairé, motivé et à qui on ne demande pas simplement de voter et puis de laisser ses dirigeants finalement trahir leurs engagements pendant l'ensemble d'un quinquennat comme ça s'est trop souvent vu.
Y compris la révocation des élus, y compris pour le président aussi.
Bien sûr, d'accord. Mais même la révocation des élus...
Mais c'est à la fin du quinquennat, la révocation du président, parce que j'ai pas bien compris.
Non, la révocation des élus, ça existe déjà dans d'autres États, y compris dans des États américains d'ailleurs. La révocation des élus, c'est de se dire, à mi-mandat, s'il y a plus de X milliers de citoyens qui le demandent, donc il faudra se définir le nombre, ce sera le travail de l'Assemblée constituante, eh bien qui le demande, il peut y avoir un référendum à mi-parcours, à mi-mandat, pour voir s'il faut démettre ou pas, faire démissionner l'élu qui a trahi...
On va voter tout le temps avec le système.
On va voter.
Parce qu'on vote déjà tous les ans quasiment en France.
On va voter bien plus souvent.
Pas les régionales.
Pas un gage de stabilité.
Ça va pas lasser les citoyens qui ont peut-être autre chose à faire que d'aller voter.
Vous avez vu toutes les affaires. Avec toutes les affaires qu'on a, eh bien oui, je pense qu'il y a une nécessité véritablement de refonder nos institutions, de les réécrire totalement.
C'est pas les institutions qui protègent les affaires, ce sont les hommes
et la déclaration pour
Juste un truc.
Il y a quelque chose de plus simple à faire. Par exemple, le ministre des Finances, quand il présente son budget et qu'il le respecte pas. Qu'il n'est pas respecté un an plus tard, il pourrait démissionner quasi automatiquement.
Vous savez d'ailleurs que ce budget,
il n'y a pas besoin de le révoquer. Ça se fait en Hongrie.
Mais vous savez que ce budget, ce n'est plus la Assemblée nationale qui est souveraine pour le voter. Non, il faut que ça passe d'abord par la Commission européenne, qui va d'abord donner son avis dans le cadre du semestre européen et qui va exiger du gouvernement
avis
de
consultatif,
revoir intégralement qui va exiger du gouvernement de revoir sa copie. Cette perte de souveraineté n'est plus possible.
Dernière déclaration, c'est pour Benjamin Griveaux à propos d'Emmanuel Macron. C'est quelqu'un dont nous avons très rapidement parlé il y a quelques instants. Il était avec nous lundi, ici en direct dans les GG. C'est François Asselineau qui veut parler d'Emmanuel Macron.
Lorsque j'ai créé l'UPR, moi le CSA m'a dit « Monsieur, vous avez zéro électeur, on verra quand vous en aurez. » Maintenant, j'ai eu 190 000 électeurs. Monsieur Macron, pour l'instant, il a zéro électeur. Monsieur Macron, il a eu droit à 17 000 articles de journaux, 75 couvertures de magazines et des dizaines d'heures à la télévision et à la radio. Voilà. Et moi, j'ai eu droit, jusqu'à ce que je sois candidat à l'élection présidentielle, j'ai eu droit à zéro seconde.
Donc il faudra qu'il réponde à cette interpellation sûrement, Emmanuel Macron.
Ah oui, je crois que ça va être même le cœur de sa campagne des 33 jours qui nous séparent du premier tour, de répondre à cette accusation de François Asselineau. Vous savez, François Asselineau, je vous l'ai dit tout à l'heure, il pense qu'Emmanuel Macron est un agent secret payé par la CIA pour déstabiliser le pays. De la même manière, il pense que l'opération au Tibet et la résistance contre l'Empire chinois est une opération américaine. Donc, il est fan des complots, François Asselineau. Donc nous, on est ravis de pouvoir, le 4 avril, avec 11 autres candidats, rencontrer le troisième type, parce parce que très franchement, il est tout sauf sérieux. Il est plutôt bon orateur, reconnaissons-le. Il est plutôt efficace, hein. On voit ses affiches partout. Il a récupéré les 500 parrainages, qui est vraiment pas une mince affaire. Donc, il faut lui tirer son chapeau. Mais très sincèrement, la campagne ne se fera pas, je l'espère, sur du complotisme, des insinuations cachées, comme nous y avons eu droit lundi soir de la part de Benoît Hamon, dans un exercice, à mon avis, dont il aurait dû s'abstenir.
Pourquoi ?
Sur les financements cachés,
sur
vous
la
savez,
transparence des vous dons vous faits à Emmanuel Macron.
Ouais, exactement. Vous vous souvenez du tweet qui avait été fait sur le compte Les Républicains, où Emmanuel Macron était représenté avec un nez crochu, un haut de forme, la faucille et le cigare. Et ben moi, ça m'a franchement rappelé Benoît Hamon dans les insinuations. Quand vous accusez, soit vous donnez les noms, soit vous vous taisez. Et accuser...
Non mais vous pouvez pas dire ça.
Laissez-moi accuser. Je ne vous ai pas interrompu. Benoît Hamon, quand il fait ses insinuations, quand il jette la suspicion, le doute, et qu'après il dit mais je vous fais confiance, Monsieur Macron, mais il est devenu un peu dingue. Soit il fait confiance et il n'accuse pas, soit il accuse et il nomme. Et ça, franchement, lundi soir, il s'est vautré. Franchement, l'héritier de François Mitterrand et de ses illustres prédécesseurs au Parti Socialiste, je pense que beaucoup de socialistes ont été très choqués. Et d'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon a eu l'élégance de reconnaître que lundi soir, il y avait deux personnes qui étaient mises en examen, François Fillon, Marine Le Pen, et que les affaires ne concernaient aucun des autres candidats. Là-dessus, je lui rends grâce.
Merci messieurs, dames, d'être passés par le conseil des GG. Bonne campagne à vous toutes et tous. Et la prochaine fois que vos différents candidats se retrouveront tous ensemble, c'est donc le 4 avril. Et là, ils seront 11, on le rappelle, ce sera sur BFM TV et sur CNews. Nous, on se retrouve demain en direct sur BFM TV, donc demain en direct sur RMC numéro 23, aussi sur BFM TV, avec Charles Consigny, Fatima Hidbounois, Karim Zeribi. Et demain, tiens, un acteur qui est assez rare sur les plateaux de télévision, c'est Thomas Sisley qui viendra demain passer le grand oral des GG avec un polar, justement, demain, un grand oral des GG avec Thomas Sisley. D'ici là, passez une bonne journée et rendez-vous demain 10h sur RMC et numéro 23 pour les GG, les grandes gueules.
RMC, jusqu'à 13h, les grandes gueules.